Bienvenue au Police Secure, épisode spécial Secure. Je suis avec Frank. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Oui. Bonjour Nicolas, ravi de vous revoir. Ben écoute, comme à chaque année au Secure, ça fait la quatrième fois que tu me donnes l'occasion de présenter, de me faire de me donner des possibilités de présenter Out of Box un certain nombre de choses. Cette année, ça a été une présentation sur notre identité, notre bien le plus précieux. Je crois que à date, depuis la pandémie, même si avant, c'était de toute façon toujours été notre bien le plus précieux, quoi qu'on en dise. Mais vu le monde numérique où on est tombé désormais depuis ces 5-10 dernières années, mais surtout depuis ces 2 dernières années avec la pandémie, qui a fait basculer le monde du travail, basculer le monde du social engineering, basculer le monde du social en général à distance. Je pense qu'on doit encore, si ce n'est faire le plus attention possible encore à notre identité, qui, pour certaines personnes, et je pense que lors de la présentation, j'ai mis pour tous ceux qui veulent la réécouter, ce que je disais à l'instant, Nicolas, n'hésitez pas à retourner sur la plateforme du Sécur ou sur la plateforme de la semaine numérique. Je crois qu'ils sont encore présents pendant, c'était 3 mois, hein, tu m'as dit.
C'est 3 mois après la pression, ça fait que ça va être, là on est au deuxième, fait qu'il reste 2 mois.
C'est ça, il reste 2 mois pour le faire, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Honnêtement, je pense que ça avait l'air d'avoir été une présentation qui a intéressé beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs et je vous en remercie pour tous ceux qui écoutent ce podcast. J'ai peut-être pas eu l'occasion de remercier tout le monde pour les commentaires et les retours que j'ai eus, mais en effet, il y a des acquis, des idées de pensée qui sont prises sur pas mal de points. Donc, je pense que j'ai essayé de remettre un petit peu d'équerre les différentes choses lors de la fête. Et je vous rappelle, c'était le sujet d'ailleurs de ma première ou de ma deuxième slide, qui était le bref histoire d'identité en tant que telle. Ça remonte à plus de 100 000 ans avant nous. C'était la joaillerie, ensuite c'était les tatous, après ça a été le consensus gouvernemental 209 ans avant Jésus-Christ, après c'était le roi Henri V invente évidemment le premier passeport ou premier papier qui passe en 1414, donc ça se fait, puis après on fait un saut en 1829, en 1840, où là, on intègre le Personal Identification Number. Ça encore, c'est encore une fois en Europe et en Angleterre. Et puis, c'est surtout William Henry Fox, pour ceux qui connaissent un petit peu les identités, c'est lui qui, en 1840, amène la photographie et dit, il faudrait quand même qu'on ait au moins la photo de quelqu'un, parce que n'importe qui pourrait se faire passer pour n'importe quoi. C'était les premiers faussaires d'il y a 200 ans, pour le coup. Puis là, on fait un saut en 36 après, avec l'identity card, évidemment, des US, pour avoir le digital record. On passe évidemment en 2001 avec le Patriot Act, à cause évidemment des deux tours, pour arriver à la biométrique. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast de ce que je pense de la biométrie, du facial et compagnie. Vous allez voir, il y a de quoi discuter là-dessus. Et puis enfin, évidemment, on arrive à la biométrie digitale, mais 2010. Et puis en 2013, ça y est, ça se démocratise avec les smartphones. Et c'est Apple qui le lance d'ailleurs, et très rapidement, les Android, les Samsung, enfin, tous les providers de machines, évidemment, s'amènent avec ces affaires. En même temps, il y a après la partie vocale. On en a un peu parlé lors de ma présentation, parce que je n'ai pas eu le temps pour tous les aspects supplémentaires au niveau de l'identité, mais il y a l'aspect vocal, il y a l'aspect, évidemment, et ce qui est pour moi un des pires, l'aspect facial. Donc, dans l'aspect vocal, vous avez Siri, vous avez Cortana, vous avez évidemment Echo au travers d'Amazon. Mais tout ça, c'est aussi une identité en tant que telle. Je veux dire, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a 3-4 ans, il y a 3-4 ans, ça a été mis un peu en exergue, mais ça fait depuis 2013, comme on dit, où Apple a démarré. Mais 2 ans après que 2013, Apple démarre, on apprend via les Wikileaks et surtout via Snowden, que Apple travaillait avec la NSA pour que les digitales qui se baladaient à droite à gauche, comme par hasard, tiens, on disait après que qu'on mettait ton pouce sur un iPhone, tu donnais ton pouce au gouvernement américain. C'est ça. C'est encore une fois, comme dans toutes mes autres présentations que j'ai faites au travers de Polysécur ou de, surtout du Sécur, c'est contre quoi vous vous battez. Si vous n'avez rien à craindre contre un État parce que vous n'avez rien à vous reprocher au travers de l'État en tant que tel, pas de problème, là, vous pouvez mettre vos doigts et à la limite, bon, après, c'est une boîte américaine et avec tout ce... Mais après, c'est un autre débat. C'est le débat de la vie privée, c'est le débat de l'animation, c'est le débat... Et ça, c'est encore une fois un autre débat que l'identité. Les gens le confondent un peu et on met tout ça dans la même valise. Et ça, c'est malheureusement dommage parce que c'est pas la même valise. Mais c'est ça qui est important. C'est justement qu'est-ce qu'on fait. Pareil, quand vous faites maintenant avec, évidemment, les reconnaissances faciales, et je vous rappelle qu'au-delà des reconnaissances comme Windows Hello ou comme évidemment les reconnaissances faciales qui vont avec un des sites qui est le plus connu en ce moment, ou en tout cas celui qui a le vent en poupe au niveau de la technologie qui est utilisée, qui est Ofindo. Ofindo est la société mondiale qui permet à des entreprises de balancer ou en tout cas d'avoir de la reconnaissance faciale dans leur système. Encore une fois, si vous regardez mon autre présentation de Splinternet, j'explique au combien que tout appartient aux ricains. Encore une fois, Ofindo, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas allemande, elle n'est pas africaine, elle est encore moins canadienne. Encore une fois, c'est les US qui, évidemment, détiennent l'avancée technologique. Donc, toujours pareil, c'est où on veut laisser ces données le faire. Un truc tout bête qui me fait râler, tiens, j'en profite pour juste cette introduction un peu grande d'ailleurs, mais Nicolas a l'habitude. Mais par exemple, on parle de Covid. Il y a eu les problèmes avec le VaxiCode. Il y a eu le problème avec évidemment comment on allait se faire VaxiVérif. Ah bah oui, mais ils vont récupérer les données et compagnie. Et c'était marrant, c'est qu'on en a fait tout un tollé pas possible. Et je suis pas là pour dire que c'est ni moins bien, ni bien, ni ceci, ni cela. Je veux pas ce débat-là. Je veux juste vous préciser un truc où quand on voit que les gens n'ont plus rien à secouer, c'est marrant parce que il y a quelque chose d'autre qui vient de sortir depuis 3 mois maintenant et depuis qu'on a libéré la Covid et de dire ça y est, c'est full pin, tout le monde peut se cracher, faire la figure, tout le monde peut avoir la Covid, on s'en tape. Maintenant, ça va être une acceptation sociale que de toute façon, tout le monde peut éventuellement l'attraper et avoir des problèmes. Mais le fait est, c'est que là, ils viennent de pondre au niveau du fédéral ArriveCan. ArriveCan est une application qui vous oblige, et vous avez intérêt à l'avoir parce qu'il y a une putain de grosse amende sur ArriveCan si vous ne l'avez pas, pour rentrer dans le pays, donc on vous oblige 3 jours avant ou 2 jours avant de la remplir. Et la première chose qu'on vous demande de mettre à l'intérieur de l'application, c'est votre passeport. Puis là, c'est marrant, j'entends personne qui disait que ça enlevait la liberté, la vie privée, VaxiCode de marbre, et j'en passe et des meilleurs, pour dire que là, oh ben lui, il passe comme inaperçu, genre parce qu'on a le droit de toute façon de voyager, donc comme ça nous gêne pas, on fera le passeport, mais là, ça ne fait pas. Je ne comprends pas. C'est là où, encore une fois, je vous le dis, messieurs et mesdames qui nous écoutez, faites pas que de poids de mesure. C'est tout le temps qu'il faut le faire, même quand ça a l'air de vous arranger, criez haut et fort que ça ne vous arrange pas, parce que moi, je trouve ça aberrant et encore pire de demander le passeport, même si on arrive à une frontière, même si ça va dans l'État fédéral, même si ça va dans le côté où là, c'est une application mobile. Moi, il est gentil, monsieur fédéral, mais je ne sais pas qui a fait cette application mobile. Enfin, si je sais qui, mais le fait est, c'est est-ce qu'il a fait les bonnes pratiques? Est-ce qu'on est bien avec les bonnes API, les bonnes autorisations? Est-ce que là, le fait que je le mets dans un téléphone qui est de toute façon chinois ou taïwanien ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux moi me faire cliquer là-dedans? Je peux pas le chiffrer. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est aussi partie de notre identité en tant que telle. Alors, pour le moment, je vais faire l'abruti, on va voir jusqu'au bout, mais mon épouse ne va pas me laisser de le faire, donc je pense que je ne vais pas avoir le choix, je vais être comme tout le monde, je ne vais pas avoir le choix, soit par social ou familial et par le fait que je n'ai pas le choix non plus de bouger, mais je trouve que, encore une fois, on nous met dans le fait accompli, on nous prend en otage sur quelque chose où, quand on nous disait que ce n'était pas obligatoire, tout le monde se mettait à râler, j'entendais tout le monde sur le truc. Et là, j'ai fait mes recherches et mes petits devoirs aujourd'hui, avant de vous parler aujourd'hui avec Nicolas. Et il n'y a que 2 blogs, il n'y a que 2 articles que j'ai trouvés depuis 2 mois sur ArriveCan. Donc, je lance un zéro dead news pour le coup à Polysécur. Au secours! et dites que c'est pas possible de mettre un curé de pasteur dans une application mobile. Je trouve ça complètement aberrant. Donc, c'est tout ça qui fait que notre identité est bien notre bien le plus précieux. Et j'espère que vous pourrez réécouter cette présentation. Je pense qu'elle est intéressante.
Oui, absolument. Puis tu as ouvert la porte intéressante avec Arif Khan parce que je suis allé en France quelques fois l'an dernier et donc j'ai dû me soumettre à un certain nombre de tests PCR et tout le tralala. Et donc, de m'inscrire dans les plateformes numériques françaises dans lesquelles j'ai le confort, on va dire, d'utiliser une application qui est développée au Canada, comme Arif Khan. Fait que je suis moi du scrupule de façon spontanée. Mais quand j'arrive avec des applications françaises, c'est pas chez moi. Je ne comprends pas. Puis là, ils demandent plein d'informations. Ils sont très curieux. Là, je suis pas dans mon pays. Je suis pas citoyen. J'aime pas. J'ai eu un énorme malaise à donner un certain nombre d'informations justement pour qu'ils puissent me retourner mon test PCR, qu'ils puissent m'inscrire sur les listes, tout ce que ça prend comme élément. Même rentrer dans ces pays-là maintenant, c'est plus la douane, c'est un espèce de formulaire étrange qu'on doit remplir, qu'on soumet. C'est la même chose. C'est le même élément étrange. Puis là, je me sentais très mal parce que là, je veux trouver un pays étranger qui vient chercher mes informations. Mais pourquoi il veut mes informations?
Je te dirais, et je te suis totalement, Nicolas, sur un autre point aussi, c'est que, et c'est ça qui est complètement... D'ailleurs, aberrant quand on voit les données qui sont demandées, c'est que c'est pas parce que des pays ont des accords entre eux que les citoyens ont des accords entre eux. Là, tu prends ton cas, mais le mien est différent. Par exemple, moi, je suis franco-canadien maintenant, puisque je suis d'origine française, mais citoyen, évidemment, canadien. Je suis franco-canadien, et pour cette partie-là, comme par hasard, ce qu'on va me demander, des fois on m'en demande moins qu'on va demander à un immigrant qui n'est pas citoyen français à arriver. Mais ce qui est très drôle, c'est que là, je vais vivre peut-être pour d'autres raisons personnelles le fait de retourner en France cette fois-ci avec mon passeport canadien. Mais là, ils vont me considérer comme canadien. Sauf que là, normalement, ils vont voir que je suis, évidemment, parce que c'est marqué né en France, où il va me poser la question, je suis pas sûr. Et c'est là où ça va être drôle, parce que évidemment on va me demander où je vais dans ma famille, on va me demander... Donc, et c'est là, encore une fois, au niveau des ID, je mets toujours une différence entre État évidemment crapule ou État fraudeur, hein, c'est-à-dire tous ceux qu'on est en warfare en ce moment, et l'État rouge qui est le node, hein, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, là, le gros État avec une croix et une serre, j'ai pas dit de nom. Du soleil levant, du soleil couchant, du soleil levant. Je veux dire que par défaut, c'est tous ces états-là qui vont faire que tu te dis, mais c'est quoi l'accord? Combien de temps? La rétention de... Tu sais, on arrive encore une fois à cette boundaries, à cette frontière très maigre, ou en tout cas une frontière très grise entre OK, t'as le droit de me demander mon identité parce que j'arrive à une frontière. Totalement d'accord avec toi, là. T'es obligé de savoir si c'est vrai, si c'est bon. J'ai mon bon passeport. C'est comme ça que je l'explique d'ailleurs dans la présentation au Sécure ce que veut dire passeport. Puisque c'était passé le bord, en fait, hein, au travers des ports marchands. Mais le fait est, c'est tout ce qu'il y a dans mon papier de passeport et la masse d'informations qu'on doit donner. Déjà dans notre pays de résidence et donc de citoyenneté pour faire ce papier, du fait que vous êtes en accord vous-même, pourquoi vous me demanderiez à titre... Alors là, on va mettre évidemment le dos de la pandémie, de problèmes sanitaires mondiaux, on était à la limite où après ça se discute, et puis c'est pas le débat du jour, mais ça se discute entre un État Marshall ou un État éventuellement presque militaire, et un État dictatorial avec un État même démocratique à une limite, à un moment donné, de dire, écoutez, vous avez des documents faits. Je ne vois pas en quoi je devrais donner en plus d'autres documents pour que vous puissiez les renforcer de nouveau ou me tracer de nouveau encore plus parce que vous avez déjà tout avec mon numéro de passeport. Vous pouvez me tracer de toute ma vie avec les passeports puisque ça suit. Et je vous rappelle que les passeports sont Interpol. Donc, en plus, il y a tout un suivi au travers d'Interpol, hein, qui est à Lyon et en France, hein, même si c'est worldwide, et qui permet justement de gérer tous ces aspects-là. Donc, je trouve qu'il y a encore une fois, c'est un petit peu ce qu'a voulu dire Snowden et Wikileaks et toutes ces affaires il y a plus maintenant de 8-9 ans désormais, c'est cette surmasse d'informations. On se demande pour quelles raisons on veut vraiment et gérer toutes ces données-là. Puis quand ça tombe sur le médical, je trouve que c'est plutôt borderline, parce que ça sous-entendrait que demain, pour X raisons, vous êtes éventuellement à risque au travers de votre santé parce que vous êtes diabète 2, je sais pas quoi à côté et autres, mais qu'il y a pandémie, machin. Ah non, t'as pas le droit de rentrer dans le truc. Oui, mais attendez, mon père qui meurt, ma mère qui meurt, ou je sais pas, je dois aller voir un tel. Ah non, tu rentres pas dans les critères. Puis on l'a vu parce que tu nous as donné tellement d'informations depuis ces 10 dernières années qu'on est, on sait que tu peux pas rentrer. Là. T'es à risque, tu vas nous filer la ch'touille. Et pourtant, c'est un droit international et constitutionnel de voyager, puisque ça fait, les passeports sont un droit constitutionnel. Au Canada, je crois que c'est le deuxième ou la troisième. Et puis, en France, c'est pareil. Donc, bref, il y a encore des demi-mesures là-dessus, mais c'est ça qui est, je trouve ça dommage, mais t'as raison. Effectivement. Et puis, alors, c'est marrant parce qu'ils te demandent tout ça, puis du jour au lendemain, ils te demandent plus rien. Ou du jour au lendemain, ils te demandent un truc, mais t'as le droit de voyager. Mais là, t'as plus personne qui râle parce qu'ils ont le droit de bouger partout. Et là, tu en arrives qu'à nous, là, on te dit « Ah, au fait, by the way, bah, vous avez le droit de bouger partout, mais c'est quand même votre passeport que vous devez donner.
» Oui, puis ça, wow. Puis je rajoute, là, je suis allé sur les choses françaises, mais tu sais, les Français qui arrivent au Québec ou au Canada, eux autres doivent aussi donner des RFCAN dans leur chose. Fait que je peux comprendre l'étendue de leur malaise de donner leur passeport à un pays étranger. Tu sais, c'est eux autres aussi, c'est quand ils donnent l'information, c'est d'un malaise sans nom.
C'est toujours le même problème, c'est la notion de, comme il le disait il n'y a pas si longtemps, encore une fois pour la pandémie, ma liberté s'arrête au bord de la tienne, mais ça va dans les deux sens. Je veux dire, c'est toujours le même débat. Alors, le juste équilibre est compliqué. Je ne vais pas dire qu'il y a une réponse à tout. C'est pas du tout ce qu'on, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je veux faire passer comme message là-dessus, là. Je veux simplement dire qu'à un moment donné, trop, c'est trop, parce que sinon, on fait comme un peu la Chine. Mais on se planque, au moins la Chine, elle se planque pas. On va vous faire du déni social, on va vous mettre des points à la Black Mirror. Vous pourrez pas prendre l'avion si vous avez 3 sur 10 parce que vous êtes un mauvais citoyen avec tout ce que ça fait. Vous avez été en retard à payer des impôts, en retard à traverser une rue, vous avez eu tel et tel PV. Il faut savoir que là, avec Shenzhen, c'est ça. Hein, c'est, tu payes pas tes impôts à temps, t'es mauvais citoyen sur certains points, t'as pas traversé dans les clous, enfin, avec tout ce qui génère. Tout ça te donne un score social. En dessous d'un score social de 4,5, tu es incapable de prendre l'avion. Ton passeport est bloqué. C'est là où vous allez. C'est ça la technologie. Moi, j'ai pas fait de l'informatique depuis 35 ans pour m'arriver là. C'est clair. Enfin, je vous le dis tout net, hein, je préfère revenir à l'âge de pierre. Et pourtant, j'adore mes claviers. Hein. Tout le monde, ceux qui me connaissent, savent que je vis avec tout l'électronique du monde autour de moi. Et là, si c'est ce genre de choses qu'on va laisser à nos gamins, c'est ça qu'il va falloir. C'est pour ça qu'il faut des hackers aujourd'hui. Pourquoi il faut notre communauté? Pourquoi il faut faire? C'est, faut protéger dans la bonne discussion, dans la constructivité, dans la laïcité. Je veux encore pas une fois rentrer dans des débats politiques et compagnie, mais dans la démocratie au mieux, de dire « wow, ne dépassons pas le cadre et n'allons pas dans l'extrême débilité de faire que… » Regardez cette technologie, comment elle nous a apporté. Elle a sauvé la planète au travers des deux ans de pandémie. Quoi qu'on en dise, le boulot tertiaire ne s'est pas arrêté, les entreprises ne s'est pas arrêté, les supply chains ont réussi à continuer sur un certain nombre de points. Oui, il faut des bras, il faut des choses après coup, mais je veux dire, c'est d'autres aspects de notre vie qui a bougé. Le tourisme, le cinéma, les machins. OK, tout cet aspect aussi de nourriture, le côté de service à la clientèle en tant que tel. Il faut se couper les cheveux, il faut quand même pas toujours trouver un coiffeur. Croque-mort, faudra toujours en avoir un. Enfin bref, il y a quand même un maximum de choses au niveau médical qu'il faudra. Il y a certains pans qui ont été touchés, mais tout le reste, tout l'aspect service et pas qu'informatique, c'est grâce à l'informatique que ça soit fait. Et c'est là où on se dit que ça a permis justement de faire quelque chose de bien. Donc, ne le retournons pas. À faire qu'en plus, maintenant, ce service étant de faire quelque chose, bah, ça met évidemment cet aspect de dire, on va faire Big Brother. Alors, c'est, Ça, je sais que je vais me faire râler sur le fait que je le dis. Je veux pas encore relancer. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais ça fait quatre fois que je le dis. Mais la notion de, comme on dit, des armes à feu ou des trucs, c'est pas une arme qui tue une arme. Hein. C'est un homme qui fait. C'est la même chose pour la technologie. Si on a décidé que cette technologie devait être mal utilisée, c'est comme une voiture. Vous roulez à 200 km/h, c'est pas la voiture qui roule à 200 km/h toute seule. Hein. Elle a son accélérateur qui est appuyé derrière. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre, que c'est à nous en tant que on veut faire du Web 3, c'est là-dessus que je vais basculer sur ce que m'a demandé Nicolas pour la suite de ma presse. On veut faire du Web 3, le Web 3 décentralisé. On veut ce Web 3 décentralisé. Si on veut se décentraliser, il faut d'abord se responsabiliser. Et j'ai l'impression que ce point-là est compliqué parce qu'après, il faut faire pas l'unanimité, mais une sorte de consensus. C'est l'état d'esprit même des smart contracts dans la blockchain pour faire du consensus sans faire du proof of stake, comme ils disent. C'est exactement ça, mais il faudrait que les gens le fassent déjà par eux-mêmes et qu'à partir de là, ça puisse faire. Et tout ça amène à l'identité numérique. Je rappelle encore une fois, je me permets de sauter cette fois-ci au niveau de l'identité numérique. N'oubliez pas que votre identité numérique, ce n'est pas login mot de passe. Ce n'est pas votre mail. Ce n'est pas... comme je l'ai précisé, c'est tout un faisceau de choses que vous faites au travers de votre ère numérique, donc de votre scope numérique, on va l'appeler comme ça, ou de votre mouvement numérique. Et puis, c'est les expressions, c'est-à-dire ce que je dis. C'est les publications, c'est ce que vous partagez. Là, Dieu sait que on en a fait déjà des choses et il y en a eu des explications sur arrêter de mettre votre vie au travers de la planète, au travers... Flickr, Radioblog, YouTube, bref, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est ce que je partage, c'est la profession. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, plus vous allez partager ce que vous faites automatiquement, que ce soit sur LinkedIn, sur Monster, sur les jobs illico, les WebFit, peu importe. Les avis, ce que vous appréciez, tout ça est récupéré comme un système d'identité. Vos coordonnées, évidemment. Donc, souvent, beaucoup de monde, des fois, veulent... évidemment, savoir qu'on puisse les contacter. Donc, souvent, c'est soit des sites, soit des trucs de CV, soit des pings de base. La réputation, ce qu'on dit sur moi, parce que ça, c'est la pire de celles qu'on veut évidemment gérer. Les hobbies, n'oubliez pas non plus les certificats qui attestent votre identité. Tout ça vous donne aussi un aspect. Ah, je suis sur Keybase. Ah, bah, je suis sur Tote. Bah, tiens, j'ai un accès XY à tel endroit. Bon, j'ai une clé. PGP, donc tout ça vous génère aussi le point de la consommation. Puis ça, c'est plutôt les grosses boîtes qui peuvent savoir. Hein. Amazon n'est pas idiot de faites des trucs qui vous intéressent pas sur Amazon. Vous allez voir la blague, petite astuce de l'utiliser pour soi. Quand vous voulez éventuellement acheter quelque chose, mais que le prix vous concerne pas, vous y allez et vous la mettez dans votre liste de préférences. Et vous dites, oh, je la verrai après. Vous allez voir Amazon une semaine plus tard. Hey, il y a baisse de prix, t'as 25% de moins. C'est comme ça qu'on peut les utiliser à notre bout. Mais bon, en tout cas, c'est le but. Les connaissances, ce que je sais, les avatars. Ça aussi, des fois, on se dit, je peux pas être reconnu parce que de toute façon, j'ai pas ma face. Oui, mais on te connaît dans World of Warcraft, on te connaît dans Gravatar, on te connaît dans, si je prends Polysécure, parce que là, je prends Polysécure, c'est les trois têtes, c'est un logo en plus spécifique pour Nicolas. Si on connaît pas ça, on va vite savoir qu'après coup, on peut faire un peu de recherche. Puis évidemment, les audiences, c'est-à-dire qui je connais, parce que tout ça fait, c'est le mesh de comment fonctionnent évidemment les réseaux sociaux, c'est le mesh de comment fonctionne un tel et un tel. Vous avez vu déjà LinkedIn qui montre qu'un tel et un tel gagne ça. Pour vous, pour lui, il a l'air d'avoir les mêmes attraits, les mêmes groupes, les mêmes machins, les mêmes ceci. Même eux le font, ils utilisent de cette manière-là. Donc c'est toute cette cartographie qui redevient votre identité numérique. Et tout ceci, si vous le générez pas avec bienséance, mais surtout quand je dis bienséance, c'est comme un père de famille pour dire je fais attention, pas de trash, j'efface mes trucs que j'ai pas besoin. Puis tout ça, ça se corrobore avec d'autres présentations qui sont un petit peu croisées avec tout ce que je dis, c'est-à-dire vos passwords, les two-factors, la notion de pas garder un compte. Si vous avez pas été sur un service depuis plus d'un an, vous savez, c'est comme les déménagements, hein, garder des cartons pendant 6 mois, vous pouvez jeter les cartons, hein, ce que vous en avez pas besoin. Bon, ben, c'est pareil, je vois pas pourquoi vous garderiez un service. Alors après, il y a des services, des fois, on les garde parce que c'est soit un achat parce que c'est un abonnement sur un logiciel et on le paye une fois à l'année, ça je suis d'accord. Mais si admettons que j'ai une bêtise parce que ici c'est Kijiji, si vous n'avez pas été chez Kijiji pendant un an et demi, Le problème, c'est votre vieux mot de passe, c'est peut-être depuis un an et demi sur place, que vous avez telle et telle affaire, que ceci, que cela. Donc, ça vaut mieux fermer le compte et le réouvrir, et quitte à le réouvrir avec un autre avatar. Des fois, on veut garder éventuellement son background, son truc, si vous faisiez énormément de choses. Tout ça, c'est dans des contextes. Mais ce que je rappelle comme contexte, c'est que quand vous ne l'utilisez pas, dégagez-le. Ça vous évite évidemment de faire. Je tiens à préciser en même temps un point important, c'est que Experian, qui est la troisième structure au Canada qui fait les tests, qui fait les tests des comment on appelle ça, des codes de crédit. Le terme m'avait échappé, des codes de crédit au Canada, donc avec Equifax et avec TransUnion. Vous en avez trois, hein, les plus connus, c'est ceux-là. Experian sort en 20, on ne peut pas dire de bêtises, fin 2020, début 2021. En année 2019 et 2020, les fraudes reportées à Experian en identité, hein, l'ID fraud, donc attention. En plus, quand je parle de l'ID fraud, encore une fois, ça a un impact sur la vie réelle. On vous génère info de votre feuille de paye, on peut aller sur le dark web et récupérer malheureusement ce qui aurait pu être piqué je ne sais où, à quel endroit. On peut aller créer avec, en plus, si on connaît le nom de jeune fille de votre mère et votre date de naissance, on va chez Crédit Karma ou chez Borrowen et on a votre code de crédit autochtone parce qu'il passe par Equifax derrière, mais il demande tellement peu de choses à pas connaître que si vous avez dit « Ah, ma mère, machin », ben on voit la mère, mais la maman, elle a mis son nom de famille sur Facebook et compagnie, on peut récupérer les infos. Pas très compliqué non plus en disant « Hey, joyeux anniversaire », on tape le « joyeux anniversaire ». Anniversaire dans les trucs, on voit la date du jour. Donc, c'est pas très compliqué non plus en social engineering pour récupérer toutes ces infos-là. Donc, 33% de fraude de plus en seulement le premier mois de l'année 2020. On n'était pas encore en pandémie à ce moment-là, puisque la pandémie, rappelez-vous, a démarré le 13 mars, si mes souvenirs sont bons, en tout cas au Québec. Je veux dire, par défaut, c'était aux alentours du mois de mars 2020. Et ça, le coût, puis là, c'était surtout sur les UK et le US, le coût perdu pendant cette année, pendant ce mois-ci, c'était 140 millions de dollars. Donc, c'est vraiment, puis là, je l'ai dit lors de ma présentation et je vous le redis pour le podcast, là, j'ai eu, moi, le retour, j'ai la chance, j'aime bien quand ils m'écoutent, mes amis, ils me disent, bah, t'es gonflé de nous dire ça. J'ai quand même eu la chance d'avoir quatre de mes amis assez proches, enfin, au moins trois d'entre eux, l'autre je connaissais au niveau professionnel, mais il a quand même voulu partager avec moi son expérience. J'ai eu donc quatre personnes que je connais d'assez proches et depuis très longtemps et qui m'ont expliqué comment tout ça est arrivé. Et ces gens-là, donc certains sont même vraiment des bons en technique, alors pas spécialement dans la sécurité, mais des développeurs, des DevOps, des TI, des architectes et compagnie, donc loin d'être des idiots dans le monde de l'électronique. Ils se sont pas fait avoir par des erreurs à eux. Ils se sont fait eu parce que il y a eu des leaks. Donc, je vais pas rappeler le plus gros leak au Québec, malheureusement, d'une boîte verte, d'un autre sigle qui nous prend nos impôts et qui est au bout de Sainte-Foy à Québec City. Là aussi, il y a eu des leaks aussi. Donc, bref. Quand on prend tout ça, plus LinkedIn, plus le dark web, plus tous les leaks qui sont, regardez à HBitPunning, vous verrez évidemment tous les leaks qui donnent la liste des leaks qui peut avoir. C'est complètement fou de s'apercevoir que ces gens-là, ça ne s'arrête pas qu'aux mails et mots de passe. Ils ont un certain nombre d'informations où c'était les adresses, où c'était éventuellement des hints. Donc, les hints de vos mots de passe, c'est encore pire, parce que ça sous-entend... Tu sais, si vous mettez Paris, ben on pense qu'éventuellement, soit vous y avez été, ou soit vous venez de Paris ou de la France, ou si vous mettez des choses au travers de certains pays. Donc, tu sais, comme je dis souvent, c'est comme le mot de passe, mettez des choses que le gars ne peut pas éventuellement... Si vous êtes Québécois d'origine, bah mettez rien du Canada et du Québec. Mettez des choses d'Allemagne, ou mettez des choses, je sais pas moi, du Japon, ou mettez des choses... Enfin, je veux dire, n'arrangez pas non plus le gars pour qu'il puisse trouver quelque chose de facile à vous identifier, sachant qu'il va avoir évidemment la main libre pour le faire. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, ces amis ont eu vraiment une grosse, grosse, grosse... on va dire... Il y a eu un gros impact sur leur truc, parce que moi, un de mes potes, un des quatre a vraiment été sollicité. C'est-à-dire qu'il y a eu carrément un permis de conduire américain qui a été créé à son nom. Il y a eu carrément une demande via ce permis américain, ça a passé la frontière. Alors, je ne sais pas si c'est avec ce permis, mais ça a passé la frontière canadienne pour aller arriver à Winnipeg. Et là, ils ouvraient, ils voulaient ouvrir. Donc, il s'est fait avoir par, en fait, un compte de provider de téléphone parce qu'ils étaient en train de prendre un crédit pour acheter un appartement. Et il était en train, d'ailleurs, c'est le concessionnaire de Lexus qui l'a appelé en disant, au fait, bon, je voulais vous dire, on a récupéré votre téléphone par je ne sais pas quel biais, parce que ça, il a encore des doutes de savoir comment la boîte a fait. Il pense que normalement, il y avait quand même quelqu'un qui s'y connaissait, qui a quand même récupéré, je ne sais par quel moyen, le bon numéro de téléphone cette fois-ci. Et par ce biais-là de fraude, ça a été revenu par lui en disant « je pense que vous achetez pas de voiture, vous voulez pas ». C'est comme ça que tout ça a démêlé, ça a démarré par la voiture, puis après il a démêlé le fil complet, mais c'est passé par les Crédit Karma que je vous dis, les Borrowell, les gars s'étaient fait installer une carte, les fameuses cartes co, ou cartes néo-financial, qui sont des nouvelles technologies pour avoir des cartes prépayées ou des cartes évidemment avec des cartes de crédit où ils vous filent dès le départ 3 000 $. Dès le départ 3 000 $ pour certains, ça y est, ils font ça même 10 fois dans la journée et c'est 30 000, hein, je suis désolé, mais c'est... Il doit y avoir évidemment dans les différents supply chains des choses. Il faut faire très attention à tout ça, mais le temps que ça sache, le temps que ça puisse se faire, c'est tout cet aspect-là qui est compliqué et que votre ID par défaut doit être vérifié. Donc, si vous avez été touché par cette fameuse boîte verte, moi j'espère que vous êtes abonné à Equifax pendant les 5 ans. Si c'est pas le cas, faites-le. Si vous aimez pas Equifax, allez dans TransUnion. Peu importe, j'ai pas de préférence pour les deux, mais allez quand même vous abonner, ça coûte 100 piastres, mais 100 piastres par an, ça vous permet de vraiment, vraiment, vraiment vérifier tout ce qui se passe, les demandes de crédit qui impactent votre cote. Moi, je l'ai acheté dès le départ, là, on me l'a offert, parce que moi aussi, j'étais à cette boîte verte et que on m'a réoffert pour jusqu'en 2026, mais je suis quand même inscrit à l'autre, parce qu'il y a des fois des choses qui se passent à l'une et qui se passent pas à l'autre. Ça me permet d'avoir en plus une assurance aussi en même temps au niveau de mon identité. J'ai une assurance pour tout refaire. Au niveau des papiers, vous savez que ça coûte très cher. Ou en tout cas, ça met beaucoup de temps. Puis en plus, vous avez la protection qui va avec au travers de l'assurance. Peu importe après si on l'aime ou on l'aime pas. Normalement, on est assuré. C'est principal. Ils vont jusqu'à, je crois, 25 000 $ aussi pour les pertes qu'éventuellement vous pourriez pas prouver pour certaines choses qui permettraient justement d'être gérées. Donc, je trouve que ça, c'est aussi quand même super cool et efficace. Donc, moi, vraiment, à aujourd'hui, il faut prendre à cœur, et c'est le moment de le dire, son identité dans un état d'esprit où, comme je le dis, notre bien le plus précieux, c'est Fort Knox. Je veux dire, il n'y a pas le choix qu'à date d'aujourd'hui, c'est la chose qui, normalement, puis ça, c'est un truc complètement malade sur cet aspect, c'est que il faut impérativement être sûr et certain qu'il y aura des impacts sur votre vie privée, il y aura peut-être des impacts sur vos finances, puis ça, c'est sans commune mesure de toute façon. En sachant que on peut aussi, grâce à ça, aller dans, je sais pas moi, un compte X ou Y. Hein. Je vous rappelle que votre identité va aussi avec votre protection de vos codes. Hein. On rappellera jamais assez hein, des mots de passe très longs, du two factor, des gestions à là où il faut évidemment gérer. Puis maintenant, pour passer dans l'autre étape, parce que j'avais promis à Nicolas de passer aussi sur les choses que j'avais pas eu le temps de discuter lors de la présentation. Il y a aussi des compagnies, alors souvent c'est malheureusement encore une fois des compagnies américaines comme Identity Force, ID Watchdog, LifeLock, Identity Guard, Aura, c'est des boîtes qui vous permettent en fait de protéger votre identité au-delà d'un peu comme un password manager mais pour votre identité. J'en ai testé aucune à date. On m'a précisé que Watchdog ID était quand même celle qui était vraiment celle qui était on va dire celle qui se démarquait. Aura aussi, d'ailleurs, c'est une des nouvelles qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Après, si on aime By Symantec, il y a LifeLock, mais après, bon. Après, c'est juste un choix en termes de prix, en termes de points, mais le first en ranking, c'est quand même Aura qui sort en premier. Et là, moi, ce qui est évidemment important à comprendre et à faire, c'est que automatiquement, faites attention aux layers supplémentaires qu'on vous demande. Parce que là, on a expliqué de tous votre cartographie d'identité, mais ça, c'est ce qui était acquis depuis déjà des mois et des années. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met, comme je vous l'ai dit, la biométrie. On vous met, comme je vous l'ai précisé, votre vocal. Donc, au travers du vocal, on a toute la partie vocale de Echo, Siri et compagnie. Ça veut dire votre téléphone quand il vous dit « Ah ben, je voudrais que tu apprennes pour que… » Ah oui, ça sous-entend que vous imaginez que Siri pourrait très bien vous identifier d'une certaine manière si la personne savait vous imiter en même temps ou enregistre dans un… Là, j'ai rien inventé. Hein. On enregistre dans un petit player ou même dans le téléphone. On prend toute une phrase et puis ça, vous avez dû tous voir les films. Hein. On découpe les phrases comme on veut puis on la remet. Un des derniers Missions Impossibles, il fait ça pour aller capturer le premier ministre anglais dans The Rogue. Je crois que c'est Rogue. Le titre, c'est Rogue Foundation. Là, où ils essayent de prendre les gars, puis il faut la biométrie de son œil, il faut l'empreinte et il faut la truc digital. Bah, la truc digital lui fait lire tout un truc et il le découpe. Donc, méfiez-vous aussi que vos empreintes digitales, encore une fois, les empreintes digitales sont sauvegardées où? Vous croyez qu'ils sont sur votre téléphone? Vous croyez qu'il est sur votre téléphone ou qu'il est sur votre compte Apple ID, qui lui-même, comme le compte Google ID, va l'enregistrer et il se trouve où? Il se trouve sur les serveurs américains. Encore une fois, ça se trouve avec le fait que on pourra pas me faire croire, même si j'ai pas envie de me défendre contre l'État, que la NSA ne peut pas dire demain « Salut, bon ». D'après ce que j'ai compris à une époque, que normalement, Apple, il y a eu toute une histoire là-dessus, vous pouvez faire des recherches sur Google. Vous tapez le mot FBI, border, non, c'est FBI, et le nom du truc, c'est borderless, border… Je vais retrouver le terme, mais vous tapez FBI Apple Digital Fingers et vous allez trouver que Apple n'a jamais voulu en fait donner l'empreinte ou l'accès au téléphone qui était demandé avec l'empreinte digitale qui a été voulue. Donc, bon, on peut éventuellement dire est-ce que c'était de l'esbrouf marketing, est-ce que c'était prévu avant pour en fait dire ah, regardez, on protège celui-là, mais on en donne 800 derrière. Hein, ça, c'est... je peux plus apparaître. Aller voir les décrypteurs, aller voir des gens beaucoup plus forts que moi, là, je peux pas vous dire plus. Vous savez, c'est un peu comme ils disent on a trouvé 300 kilos de cocaïne, mais il y a 3 tonnes qui est passé dans le bateau d'à côté. Bon, bref, on le sait tout ça. Malheureusement, on a tellement de mal à faire confiance maintenant à tout qu'on estime qu'il y a des complots partout, mais je veux pas rentrer là-dedans. Ce que je veux juste vous dire, c'est que par défaut, faites attention. Si effectivement, vous avez déjà mis votre digital, est-ce que ça vaut le coup de mettre votre facial, par exemple? Au niveau de la face, à aujourd'hui, comme je le disais à Nicolas en off, c'est Onfido qui est une des sociétés les plus en vogue pour faire de l'API sur du hashing de visage. Puis d'ailleurs, ils vous demandent en plus de faire la photographie de votre carte d'identité ou de votre permis. Puis comme vous avez pris votre visage en selfie, ils vont matcher les deux au niveau du hash pour savoir que celui qui tient le téléphone actuellement et qui le fait, ça marche bien. La SAC, d'ailleurs, à Québec, utilise cette technologie. Il y a d'autres sociétés, même au niveau d'assurance, qui utilisent aussi cette techno. Puis pour pas même vous mentir, si vous êtes un peu crypto-actif et crypto-monnaie, vous avez Xengo, qui est un des wallets qui est en vogue maintenant, qui est un hot wallet. Donc, pas un cold wallet, hein, c'est un hot wallet sur la partie, évidemment, du téléphone. Donc, un wallet software, mais hot, parce qu'en fait, votre clé privée, normalement, est dans le téléphone, mais pourrait être dans la partie, évidemment, du serveur. Mais non. Donc, on pourrait l'appeler wallet software ou wallet cell software cold, donc froid, parce qu'ils sont malins, c'est les seuls à faire ça. C'est qu'au moment où vous créez votre wallet et vous mettez votre mot de passe, vous savez que vous avez un site en passe-phrase de 12 ou 24 mots, là, les fameux sites que vous devez mettre au marteau burin. J'aime bien, on revient en mode des Grecs au marteau burin pour faire qu'on doit l'enterrer dans le terrain. Bon, on voit que ça se perd et compagnie. J'aime bien, on est dans le monde de l'électronique, mais on repart quand même au papier ou en tout cas au marteau burin pour le faire. Ça, c'est très, très drôle pour parler des crypto-actifs. Mais le fait est, c'est que eux, la passe-phrase, c'est le H de votre visage que vous allez prendre en selfie. Ils ne vous demandent pas un truc ID pour savoir. Ils vous demandent juste de vous prendre en photo, en selfie. Ils font un hash de votre visage et ce hash-là devient votre clé privée donc votre SID, votre clé privée du point. Et alors, j'ai regardé avec mon ProxyGet avec Zap et puis mon Piolite pour voir si éventuellement ils n'avaient pas fait, mais effectivement, ça n'a pas l'air, en tout cas, là j'ai rien vu, mais effectivement, après ils vous demandent un accès à soit un Dropbox ou à Google ou autre, puis là vous connaissez les droits des OpenID, hein, qui a le droit juste d'aller à l'endroit que tu partages, à tel endroit de ton G-Drive, et ils vont aller protéger ce fichier-là, donc il reste dans le téléphone, et ils vont aller mettre ce fichier-là directement dans votre G-Drive. Pour comme ça, si vous perdez votre téléphone, si vous avez évidemment pas accès à votre téléphone, ou si vous crachez l'application, enfin peu importe, d'abord partez avec votre toilette et votre Dungo, vous dites coucou, rien. Lui, il va vous dire, bah ok, mais moi, il faut ma passe-phrase. Donc d'abord, il va dire, est-ce que vous en aviez déjà une? Oui, ok, bah faut que j'ai quand même un réaccès à votre Google. Oui, il y va, il retrouvera ce fichier qu'il a sauvegardé. Et là, à partir de là, quand vous allez vous prendre en photo, en toute logique, si vous n'avez pas vraiment beaucoup changé, maquillé, ils vous interdisent d'ailleurs de mettre des lunettes, hein, en l'occurrence. Là, c'est vous, hein, si vous voulez récupérer vos sous, vous avez plutôt intérêt d'avoir la même face, hein, pour le coup. Alors, c'est sûr que ça pose la question, encore une fois, j'ai un accident, j'ai un retour facial, j'ai été brûlé, j'ai des soucis. C'est là aussi où tout ce genre de choses peuvent... Tu sais, on prend acquis que bah, ma face, je vais l'avoir, mais ma face, ça va vieillir. Tu sais, est-ce que les rides vont être pareilles? Est-ce que si ça s'affaisse? Est-ce que si j'ai un problème... Alors, tiens, je viens de me prendre un coup dans l'œil, j'ai l'œil au bord noir, j'ai l'œil comme ça. Bah, si je me prends ma photo, je peux plus jamais repartir sur mon wallet. Non, mais... Ça a l'air d'être con. C'est des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, on s'aperçoit que la notion de l'électronique et de l'identité essaye d'aller toujours plus loin, mais on a encore une fois dans la vraie vie des réticences avec évidemment tous ces aspects. Donc, c'est pour cette raison que attention à la notion biométrique. Puis, en même temps, Onfido est quand même une société qui, je vous l'accorde, en termes de fraude et la team, comme ils le disent, la fraude au travers de Onfido pour qui vérifie des millions d'identités par année, leur expert au niveau des remote identités précise que sur 1500 clients, ils ont détecté pour 4600 documents dans 195 pays différents. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi qu'on en dise, sur 1500 clients, hein, ça fait 4600. Bon, après, il faudra faire un ratio de 3, mais par, évidemment, tout cet aspect-là, bah, c'est là où on se dit qu'à aujourd'hui, il faut faire quand même attention, évidemment, à ces datas. Encore une fois, de savoir où c'est sauvegardé, de quelle manière et pour quelle raison. Et puis, un autre débat aussi important, c'est que l'ID fraud est en increase entre, évidemment, 2018-2019, comme je vous l'ai dit, et 2021, puisque en 2018-2019, on était à 3,1. En 2020-2021, on est arrivé à 7,3. 7,3. Je ne sais pas si vous imaginez à faire que ça commence à, évidemment à prendre tout cet aspect évidemment à gérer. Donc, la COVID a évidemment driver cette ID fraud de plus, parce qu'évidemment, il y a eu quoi? Bah, pour le Canada, il y a eu les droits d'accès, évidemment, aux fameux sous du gouvernement. Hein. Dès que les gouvernements font des trucs de sous, bah là, c'est mort. Hein. La fraude démarre directement sur tout ce qu'il en est. Donc, là, le truc qui est très drôle, c'est que là, sous les yeux, j'ai un graphique qui me montre comment la fraude a été estimée par exemple, overtime, entre la partie de l'Europe et de United Kingdom, oui, c'était vraiment les deux seuls au niveau de l'Europe, on est passé de 2,50%, ça a monté en août 2020, à pas loin pour les US, mais surtout pour le total de fraude, ça a frôlé les 10%. Donc, ça prouve que dès qu'on a une aide, dès qu'il y a une volonté de gagner de l'argent facilement, dès qu'on peut avoir le feux, je sais plus combien, là, c'était 400 piastres ou je sais plus combien de piastres par mois, dès qu'on pouvait aller, et puis en plus, les tests n'étaient pas vraiment très, très... Là, je félicite pas d'ailleurs la partie fédérale à ce moment-là, hein, pour le coup, mais que ça soit au Canada ou ailleurs, hein, je veux dire, dès qu'il y a une notion de pouvoir garder de l'argent par rapport à des gens, ben, on va essayer de se faire passer pour ces gens-là pour, évidemment... récupérer, puis c'est le financial service qui évidemment est celui là, le nombre de reports sur les suspect ports en vertical, c'est l'équivalent de 30 millions de number de reports sur 2 ans à cause de la COVID sur tous les pays que je viens de vous dire. Donc C'est pour ça que la notion fraude en tant que telle, fraude de sophistication, comme ils disent. Alors évidemment, tous les trucs sophistiqués sont très courts. Hein. C'est la règle de l'informatique et la règle de la sécurité. Le 80 couvre les 100%. Il n'y a que le 20% qu'on dit bon bah c'est pas que c'est pas grave. Mais comme on sait qu'on peut pas être à 100%, il y a un moment donné à cause de la pénurie de main d'œuvre, à cause des projets, à cause des bon bref de tout ce que vous pouvez vivre aussi dans votre vie au quotidien. Automatiquement, on peut pas tout faire, mais les easy et les médiums, le easy, c'est énorme. C'est l'équivalent de 70% dans l'année 2020 et 78% dans l'année 2021. Comme si qu'il y avait une telle ras-le-bol de vérifier ou de pas avoir fait attention, d'être resté chez soi, de gérer un certain nombre de choses, bah, ça a augmenté, évidemment, les tests ou les, la notion qu'on a, évidemment, pas à faire, puis surtout pour le healthcare et pour tout ce qui doit être là, mais bon. Donc, un dernier débat au niveau des techniques, puis ça c'est important, c'est les National ID Cards. Il faut faire très très attention que selon évidemment les pays, par exemple aux États-Unis, je le dis d'ailleurs dans la présentation au Sécur, aux États-Unis, de changer de nom, c'est un droit constitutionnel. S'ils ont la preuve et la possibilité de l'échanger sur cinq groupes, c'est-à-dire le permis, assurance sociale, impôt et je sais plus quoi, à partir de là, ils peuvent changer de nom. Donc, vous imaginez, dans la truc des subprimes, quand ça s'est passé en 2008, il y a Batman et Robin qui a acheté l'Empire State Building. C'est pour vous donner le coup que c'est de la blague, mais ça marche encore. Hein. Avec Obama, vous pouvez faire des recherches sur Google, vous allez voir. Des mecs qui ont fait Batman et Robin pour acheter évidemment l'Empire State. Bon, ça, c'est pas fait, mais ils peuvent changer de nom. Donc, quelqu'un qui s'appelle Tim Smith peut s'appeler John Doe et tous les noms qu'on a dit, ou Jessica Marant, là, ou peu importe. Donc, faites attention, évidemment, que tout ça est facile à évidemment modifier. Puis, bah, si on peut changer d'identité, vous imaginez bien que si on peut changer de nom, bah, c'est bien plus facile, évidemment, d'aller piquer des identités à d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est évidemment un des points complètement délire. Le pire des délires pour moi à date depuis ces deux dernières années, c'est on parle des fameuses CRFF. Alors, je n'arrive jamais à dire ce putain d'acronyme avec mon dyslexique. C'est le Cross Resource Forgery là, qu'on utilise dans le web pour le pentest là, quand vous voulez forger éventuellement des tokens, forger des cookies, forger des points. Bah, ça marche dans la vraie vie, mais de la même manière pour l'identité. C'est de forger des faux documents. Alors, OK, on connaît tous le côté faux documents, on veut faire des passeports, on sait bien que les papiers de passeport, c'est Fort Knox, ça sera jamais dit où est l'usine. Les gars qui bossent là-dedans sont jamais évidemment pris, c'est presque pire qu'un banquier aujourd'hui, comme les papiers de 100 dollars. Hein. Vous rappelez que au Canada, maintenant, le papier de 100 dollars existe, ou c'est aux États-Unis, il existe qu'un seul papier qui ne peut pas être fait, mais bon, bref. C'est toutes ces histoires de papier, parce que tant que vous n'avez pas le papier, c'est difficile évidemment de copier. Mais de forger un document, si je parle par exemple Nicolas Loïc, bah Nicolas Loïc, je le sais, il est à son compte, je connais un peu de trucs, je vois ce qu'il fait comme boulot, c'est facile de reconnaître ses clients, je vois ce qu'il en est, je commence à fouiller un petit peu sa vie sur les réseaux sociaux, ah, il a une petite femme, ah, il y a des familles, bon, bah, je vais aller voir la fille, ah, il y a grand-mère, grand-père, on commence à avoir évidemment une vue complète. Et là, je ne donne pas des idées pour faire, hein. Surtout, ne touchez pas mon copain Nicolas, hein. Non, je ne connais pas les gars. Hein. Et à partir de ce moment-là, on peut forger des documents qui sont faux, mais on peut tellement les forger facilement avec un logiciel de paye qui vous génère évidemment le logiciel de la boîte, qui vous génère finalement que si vous allez dans le dark web et que vous arrivez, Nicolas, tu me feras un signe de tête, mais je pense que tu étais aussi dans la fameuse société verte que je parlais tout à l'heure. Donc, je suppose que tu fais partie aussi du leak qui fait partie. Donc, ça sous-entend que si vous faites une recherche et que vous avez ciblé quelqu'un, vous pouvez trouver ce leak-là. Donc, il y aura beaucoup d'informations en plus. Ce qui fait que ces informations-là en plus, voire même le NAS, qui serait évidemment le Saint Graal, bah là, évidemment, vous pouvez vous forger autre chose. Vous allez sur Borrowell ou Crédit Pharma, puisque évidemment, je le dirai pas, mais je sais quand il est né, et je connais pas par contre le nom de sa mère, mais je pourrais les trouver. C'est facile de gérer la cote de crédit. À partir de là, vous avez tous les moyens pour forger le document. Et qu'il se fasse, c'est évidemment, comme on vient de le dire, à vous de savoir comment vous protéger au travers de bah, je fais attention d'être abonné, je fais attention d'avoir évidemment donc Experian, TransUnion, Equifax. Je sais que vous aimez pas spécialement ces boîtes, moi non plus, mais il n'y a pas le choix, c'est les règles du jeu de cette manière, d'avoir une assurance adéquate pour les papiers, d'avoir une assurance adéquate au niveau de votre banque. Moi, j'ai une banque Et l'autre banque verte du Canada, mais qui n'est pas la même du Québec, qui est très, très bien protégée, évidemment, dans ce domaine, qui est incroyablement, d'ailleurs, j'en ai pas si longtemps que ça en fait la preuve, parce que j'ai modifié des choses dans mon compte, j'ai voulu payer à distance mon compte méga, tiens, mon compte méga, oui, j'ai un compte méga, je sais, je suis un mauvais garçon, mais j'ai un compte méga CZ, fallait que je paye l'abonnement, j'ai dû passer par ma carte pro. Tout de suite, j'ai eu un SMS. Non, non, votre carte est bloquée. C'est bien vous qui faites le truc. Yes or no. Hein, y a pas de... Je vous rappelle, on est smishing, puisque c'est le nouveau buzzword. Maintenant, on n'est plus fiché, on est smishé. Les smishing, maintenant, on appelle ça le smishing. C'est encore un autre buzzword que j'annonce dans le Polysécur. Maintenant, si vous voulez être à la mode, c'est smishing. Donc, je me suis fait smisher pour dire est-ce que je vais vivre. Non, c'est vraiment la banque qui expliquait que si je mettais ouais, et si je mets yes, automatiquement, elle acceptera et elle acceptera à chaque fois le paiement, évidemment, au travers de cette donnée. Donc, il y a des moyens de se défendre et de cumuler les choses. Je dis bien que c'est évidemment toujours de la... Si vous écoutiez ma femme, évidemment, je suis un vrai nightmare pour elle. Je suis un cauchemar ambulant et sur deux pattes, autant pour ma famille que pour moi. Mais il n'y a pas le choix parce qu'à aujourd'hui, la moindre chose sur votre password manager, la moindre chose sur votre téléphone, la moindre chose sur le swap jacking que j'ai parlé d'ailleurs lors de la présentation du Sécur sur le fait que contactez votre provider et qu'on soit sûr qu'on ne peut pas vous retransformer votre carte SIM et qu'on est obligé de, que vous devez obligé de donner le mot de passe au-delà de, des informations de sécurité que vous devez normalement donner, qui, je vous rappelle encore une fois, pour certains providers, c'est tout vite fait. Donc là, vous devez imposer. Chaque des providers propose ce genre de choses, ou des fois, il y en a même un qui l'a proposé, mais en payant. Bah, prenez-le si vous ne voulez pas partir. Je crois que c'est Fido, d'ailleurs, le truc avec les petits chiens, hein, qui est une sous-marque de je ne sais plus qui, mais Fido, lui, voulait le truc pour la protection du carte SIM, c'est 10 $, 8 $ par mois. Bah, prenez-la. Si vous ne pouvez pas sortir, vous ne voulez pas partir de chez Fido, prenez-la. C'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que tout ça peut vous emmener dans des trucs où je veux vous dire que si mes amis qui m'ont expliqué leur fraude et n'avaient pas fait, parce qu'attention, ah oui, je termine un point très important, c'est que ces gens-là, pour la fraude qui a été mise en place, c'est que la vraie vie revient sur votre face en vrai, là. On part plus dans la notion numérique. Vous devez porter plainte. Si vous ne portez pas plainte à la police et que vous n'avez pas votre numéro de porte-plainte à la police, rien de douge. Vous pouvez appeler votre banque et compagnie, elle va vous redemander le numéro de la police pour que vous puissiez éventuellement faire. Vous devez montrer patte blanche au travers du... Donc, faites appel surtout au service antifraude des banques sur lesquelles vous êtes axé. Moi, à date, sur les 4 amis que je viens de vous dire, ils avaient pour 3 banques différentes et le 4e avait la même banque qu'un autre. À chaque fois qu'ils sont tombés sur le service antifraude, honnêtement, il y en a un d'ailleurs qui était toujours à cette fameuse banque verte dont le leak était fait. Il paraît que c'est eux qui ont tout géré de A à Z, qui ont essayé vraiment de faire. Ça a quand même été bien été au travers des papiers. Parce qu'encore une fois, il y a des papiers à remplir, il y a des trucs du coupon. Puis comme diraient les humoristes, nous on en avait en France qui s'appelaient Coluche et qui disaient « Mettez le petit papier dans la pochette verte dans la pochette grise, surtout passez-la dans la pochette bleue, puis si vous avez plus le choix, si vous la perdez, trop tard, vous devrez recommencer. » Enfin bref, vous perdez 3 semaines d'explication. C'était complètement aberrant. Donc si vous n'êtes pas aidé derrière, évidemment, faire toutes les démarches, parce que vous devez aussi faire des démarches du côté site bancaire. Et puis si on vous a piqué, comme mon autre pote, le côté de votre usurpation d'identité pour avoir fait en plus un permis, ben là, il faut en plus aller à la SAC pour dire bon, c'est pas mon permis. Puis là, le permis, là, ils avaient récupéré le numéro parce que les gars, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils voulaient s'acheter une voiture. Donc, ils étaient obligés de donner le numéro de permis. Donc, comme ça, là, ils ont pu éliminer, mais c'était pas la SAC puisque c'était pas dans la même province. Donc, fallait que les provinces se disputent entre elles. Donc, là aussi, fallait faire des papiers de discussion de province parce que je viens de l'apprendre en même temps, enfin, j'ai appris en même temps que j'ai fait la préparation du document et de la présentation, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent au travers interfichiers, comme un peu les fichiers Ivoire et compagnie, qui sont des, comme pour les assurances, qui sont évidemment des interfichiers de permis. Je veux dire, quand ça vous tombe comme ça sur le truc, puis que vous avez tout votre boulot qui est quand même là, vous avez votre vie de famille, vous avez votre truc fait, ben je peux vous dire que ça vous fait une petite douche froide pendant les jours qui viennent, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Puis, juste pour finir, c'est simple, le moins pire des 4, ça a duré 2 mois. Et pour un de mes potes, ça fait 9 mois qu'il est dessus. Donc, le pire, c'est que quand vous êtes chopé, je peux vous assurer que c'est pas pour finir dans deux semaines. C'est ça le problème. Puis vous vivez pas spécialement, même si ces gars-là sont quand même, enfin, il y en a deux d'entre eux, puis celui où ça a duré longtemps, est quand même un gars calme, il savait qu'il avait pas fait le machin, qui sait gérer son système et compagnie. Quand il me l'a raconté, j'ai su qu'il avait une crotte sur le cœur, parce que là, ça faisait plus de 6 mois, là. C'était plus drôle. Là. Ça commençait à devenir pesant, à toujours expliquer la même histoire, à toujours faire les mêmes choses et compagnie. Donc, faites attention à bien vous protéger là-dessus. Et puis, pour finir en beauté, parce qu'il me reste encore 3-4 minutes, je vais lancer une petite bombe. Comme ça, quand j'ai une petite bombe, c'est que ça mettra peut-être éventuellement une émission à Polysécur en plus. Si Nicolas, flodez-le si ça vous plaît pas ou si quelqu'un veut le faire, mais étant aussi dans le monde de du crypto actif depuis longtemps, pas spécialement actif de mon côté, mais j'ai toujours été je regardais encore avec un de mes amis qui s'appelle Sourouquine, qui a fait un des premiers bouquins sur le Bitcoin en 2013. Donc, vous imaginez, si j'avais su et que j'étais pas si idiot que ça, parce que là, pour le coup, vous avez le droit de me traiter d'idiot, si j'avais su que j'avais miné des Bitcoins et que je les aurais gardés, putain, à aujourd'hui, ce serait vachement cool, pour le coup. Mais là, c'était pas le cas. Mais en tout cas, pour la blockchain ou pour les histoires de blockchain, là, vous avez dû entendre, évidemment, parler de toute l'aspect, on va dire, de l'identité au travers de la blockchain. Hein, on parle maintenant que ça va être peut-être le côté des smart contracts, les notions de blockchain et compagnie. Moi, pour ma part, et ça n'engage que moi, hein, pour le coup, je veux même pas mettre Nicolas dans l'affaire, le pauvre vieux, ni le reste là-dessus, mais la blockchain fail dès le départ avec l'identité. Pourquoi ? Elle ne fail pas sur le fait de la technologie, elle ne fail pas sur le fait que c'est pas possible à faire. Je vous rappelle que d'ailleurs, si vous connaissez ce monde de crypto-monnaie, si vous connaissez ce monde de crypto-actifs au sens large, NFT inclus et Metaverse, mais en même temps le côté des technologies de blockchain, hein, vous avez plusieurs crypto ou plusieurs tokens ou plusieurs systèmes comme les POS, les PO, donc les Proof of Stake, les Proof of Work, les consensus et j'en passe des meilleurs. Puis après, toutes les blockchains qui existent. La blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, la blockchain Servant, la blockchain évidemment Polygon, et ainsi de suite, Cosmo. Enfin, il y en a plein, Terra Luna, là, qui vient de se prendre une cassage de gueule, qui vient de perdre 97%, mais c'est une catastrophe depuis les deux jours. Si ça vous intéresse, c'est assez incroyable. Mais je veux dire que par défaut, au travers de tout ça, c'est toujours dédié, où vous avez toujours maintenant un crypto-actif qui est lié, parce que je crois que c'est 17 000 monnaies existantes, mais il n'y a pas que 17 000 qui marchent, hein, il y en a quoi, peut-être une cinquantaine qui fonctionnent, mais c'est toujours dédié à une blockchain ou à une technologie connue qui, elle, va rendre un service ou va faire quelque chose du service. Alors, le service le plus logique, c'est le défi, hein, le décentraliser finance, l'accès aussi au Web3, pourquoi je vous dis tout ça, c'est l'accès au Web3, c'est qu'ils veulent un web désormais décentralisé. C'est pour ça qu'on fait les échanges entre le change, le CEX, hein, j'ai pas dit sexe, hein, pour pas être très péjoratif pour la Polysécur, mais je le dis quand même, les sexes ou DEX. Donc, pour faire un coin exchange ou un centralisé exchange ou un décentralisé exchange. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est normal pour faire une technologie pour gérer éventuellement un ledger qui nécessite soit de la crypto-monnaie, soit du NFT pour dire bah, j'achète des biens numériques, je veux le prouver, ou soit je veux basculer je ne sais quel truc avec du fiat monnaie ou avec peu importe un contrat de banque ou un contrat d'assurance, je peux le comprendre. Parce que là, il y a un acte commercial dans ça. Pour l'identité, mon droit à l'oubli dans la blockchain, il est où ? Puisque essence même dans la blockchain, c'est verrouillé à vie, on peut plus t'oublier. Puisque c'est le but du jeu d'avoir accès au layer depuis, d'ailleurs Bitcoin, si vous allez sur blockchain.io, vous avez accès aux fameux anciens tokens et compagnie depuis les années 2008, 2009, hein, la première fois où il a fait, octobre 2008, donc je crois que c'est janvier 2009. Et on voit les anciens wallets, parce qu'il y a aussi le Lightning, là, le nouveau network qui passe au-dessus, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué depuis 10 ans, évidemment. Mais à aujourd'hui, il n'y a rien. Même le truc de Nakamoto, qu'on ne sait pas qui c'est, ou que tout le monde pense savoir qui de son côté, peu importe, mais on peut le voir depuis ces 12 dernières années. Donc moi, mon identité, si on me dit que demain, un gouvernement traite un ledger ou traite une blockchain en identité, ou voire même une technologie comme à la Facebook, ben j'ai quoi moi comme recours pour me dire, dites le monsieur, il est décédé, ou dites moi, je ne veux plus être là. Ou moi, je veux killer mon compte, le suppression de compte, le fameux suppression compte. Ben, ça, Ça n'existe pas. Donc, suppression compte pour une identité, parce que la technologie en sécurité vaut le coup, je vais me mettre, mais j'oublie le principe fondamental qui est, mais si j'ai pas envie d'y aller. Mais que là, en plus, au niveau du gouvernement, de certains gouvernements, on va pas nous laisser le choix. Moi, si on me laisse le choix, parce que c'est une boîte privée, je suis pas sur Facebook. OK, je suis pas sur Facebook, c'est mon choix. Facebook veut partir en blockchain ou son métaverse, je m'en tape, je veux pas y aller. C'est pas un problème. J'ai un choix logique. J'ai ma fameuse droit à la liberté ou mon libre arbitre de gérer. Mais quand ça commence à devenir une entité numérique pour être une entité d'État, ah là, ça commence à devenir compliqué. Parce que si vous n'êtes pas oublié, n'oubliez pas ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure avec Shenzhen, les Chinois et compagnie, il est où l'identité sociale avec tout le jour où on va vous dire « Tiens, on va rajouter des petits métadatas qu'on a envie là. » T'es LGB, je sais pas quoi, t'es malade de ça, t'es gros, t'es moche, t'es gris, t'es vert, t'es jaune, t'es bleu. Puis on va vouloir quand même te dire, bah tiens, dans la blockchain, t'es arc-en-ciel. Bah toi, toutes les arc-en-ciel, vous n'avez pas le droit d'aller là. Voilà, c'est interdit. Ou t'as pas le droit à l'oubli. Non. Si on va là encore, déjà on détourne une technologie pour rien. On refait encore de la bêtise sur cette technologie, on ne comprend pas pourquoi elle a été faite. Cela, pour le coup, elle n'a pas été faite pour l'identité. On doit réfléchir dans une autre manière. Peut-être qu'il faudra réinventer autre chose qui s'appellera pas, ou qui peut s'appeler blockchain, mais pas blockchain tel qu'on l'entend. C'est-à-dire, ça peut pas virer d'un côté ou de l'autre et dire, bah, comme l'autre doit prouver l'autre, puis tout le monde a le truc en décentralisé, puis on arrête là, puis, bah, on peut plus l'effacer puisque c'est ineffaçable. C'est le but du jeu. Bah, là, non. Donc, ça s'appelle plus comme ça. Donc, ça peut pas être blockchain. Je pense que je vais me faire maltraiter. C'est pas grave, j'assume ce que je viens de dire.
Parce que pour ma part, faut prendre des risques.
Oui, je suis habitué à prendre des risques, tu le sais, Nicolas, mais je pense que c'est totalement au vu de ce que moi, je peux traîner mes affaires au travers de ceux avec qui aussi j'ai pu travailler dans le monde de la blockchain et compagnie, ou dans le monde de l'identité en tant que telle et raison. Le droit à l'oubli et le droit de la suppression du compte est un droit pour moi constitutionnel au monde numérique. Si on ne peut plus le faire ça, bah déjà, votre technologie n'est pas bonne. Elle n'est pas faite. C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Non, je rectifie. C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas faite pour ça. Il faudra inventer ou créer autre chose pour faire ce genre de choses. Donc, n'allez pas faire des buzzwords à croire que du fait qu'on va mettre une identité dans un truc blockchain va vous faire « Waouh, t'es trop de la balle !» Non, non, oubliez pas que tout ce que vous allez faire va être indélébile dans la vie.
Oui, fait qu'on va terminer là-dessus. Je te remercie énormément pour ton temps. Énormément pour ta générosité habituelle de nous partager tellement de choses qui sortent des normes, parce que ça nous aide à nous faire à réfléchir et aller plus loin. C'est ça l'essentiel.
Écoute, merci de toujours tes invitations. Tu sais que je t'ai déjà dit oui pour 2023. Donc oui, absolument. On se reverra dans Secure 2023 et puis comme à tous, n'hésitez pas à envoyer des infos à Nicolas si vous voulez qu'on débatte de choses ou qu'on reparle d'autres points. On se revoit sur d'autres affaires au travers de Polysécure. Mais pour cette presse d'identité ou pour la présentation, n'hésitez surtout pas. Je suis présent et Nicolas sait me joindre. Voilà. Et merci de m'avoir enduré et de m'écouter encore une fois. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous.